Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Très grand bonjour à toutes et à tous. Il est 11h passé de quelques secondes sur Radion. Le moment est venu de retrouver votre émission littéraire, c'est Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec un nouvel invité que je vous présente sans tarder. Michel Redron, bonjour Michel.
Bonjour.
Alors, il y a de nombreuses années que vous n'êtes pas revenu devant le micro de l'émission littéraire de Radion. J'espère, Michel, que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur parce qu'aujourd'hui, nous allons vous redécouvrir et surtout, vous avez un nouveau roman sorti courant juin de cette année 2022 et qui a pour titre « Avec qui revoir Venise » aux éditions du Vignoble. Je vous présente un peu Michel Redron.
Volontiers.
Alors vous êtes à Bourguignon, vous êtes même né dans l'Yonne, très précisément à Avallon. Lors de notre première émission, qui remonte à 2014, vous aviez expliqué que vous veniez d'une famille très modeste, vous aviez
très
même
modeste.
Dit pauvre. Mais vous avez néanmoins connu une belle adolescence au contact de la nature, une adolescence rythmée par les promenades à vélo, profitant de la vallée du Cousin, donc c'est la petite rivière qui coule au pied d'Avallon, ville établie sur un éperon rocheux, le lac du Cressant. Vous avez ensuite, Michel Redron, vous avez été mobilisé durant 5 ans lors de la guerre d'Algérie, ce qui n'est pas anodin. On n'a pas beaucoup parlé en cette année 2022 du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, ni même de la fin de cette guerre qui a énormément divisé la France et qui a laissé aussi des victimes. Je peux vous demander, Michel Redron, un petit mot sur cette période, parce que vous étiez tout de même un très jeune homme, une vingtaine d'années, appelé du contingent, je suppose.
Non, engagé. Engagé volontaire. Donc, j'ai pendant 5 ans, je suis tombé à la mauvaise période, enfin à la bonne période, puisque c'était ma volonté. Mais c'est vrai que comme tous les gens de la génération, ce conflit m'a beaucoup marqué. Et puis, j'en ai conservé quelque chose, c'est une fascination pour les conflits qui n'ont pas de solution équitable. Pour tous ces conflits, où quelle que soit l'issue, il y aura forcément un des partis qui sera lésé.
En 1962, donc, l'Algérie est indépendante, mais vous, Michel Redron, vous restez dans la région, puisque vous avez travaillé à la Compagnie Générale de Géophysique, c'était une société de prospection pétrolière, et vous travaillez alors avec des Algériens qui, eux, avaient combattu contre la France dans l'armée de libération.
Oui, tout à fait. Vous savez, les militaires sont des gens turbulents. Et les Algériens ont expérimenté ça aussi. Leurs militaires, la paix arrivée, ils étaient très turbulents. Et le tout nouveau gouvernement algérien essayait évidemment de préserver l'emploi. Et il offrait comme main-d'œuvre aux rares compagnies françaises qui travaillaient encore au Sahara d'anciens militaires. Et donc, moi, je me suis retrouvé, 6 mois et demi après l'indépendance, au cœur du désert, seul européen, avec une compagnie, une Katiba de FLN. Là, je me suis dit, oh là là, les choses vont se compliquer. Mais pas du tout. Les choses ne se sont pas compliquées. Pendant toutes les soirées, ces gens m'ont raconté leur guerre. Ce qui fait que, quand je suis rentré, je me suis dit, j'ai une expérience intéressante, parce que j'ai ma vue des choses, et puis j'ai la leur. Donc, ça m'a amené à écrire mon premier roman qui s'appelait « Les enfants de l'Empire ».
Qui raconte ce drame algérien à travers la vie de 2 demi-frères qui se retrouvent face à face, l'un avec une mère européenne et l'autre une mère musulmane. C'est toujours un peu cette thématique de, d'une guerre qui déchire celles et ceux qui naturellement devraient vivre en harmonie et dans l'affection.
Tout à fait. Et puis, c'est un livre qui, à mon avis, n'a pas eu tout à fait le succès qu'il aurait dû, parce que, vous savez, si on ne dit pas il y a les bons d'un côté, il y a les méchants de l'autre, ça ne marche pas. Moi, j'ai essayé de dire, oh là là, ces choses-là sont très compliquées. Si vous avez un moment, asseyez-vous, je vais tenter de vous expliquer.
Alors, Les Enfants de l'Empire, ça a été votre premier roman, paru en 2001, dans une belle et grande maison d'édition bourguignonne, malheureusement aujourd'hui disparue, créée par Gérard Gautier, à qui vous devez beaucoup d'ailleurs, vous le dites toujours avec beaucoup de sincérité, c'est Gérard Gautier.
Ah, ben ça, absolument. Je le dis, je le redis, et je ne suis pas le seul. Tous les auteurs qui sont passés par l'Armançon reconnaissent que les éditions de l'Armançon les ont beaucoup aidés. Et parce que vous savez, écrire sans être publié, c'est comme préparer un bon repas que personne ne mangerait. Et Gérard Gautier a quand même permis à une multitude d'auteurs régionaux de publier leurs livres.
Belle et grande maison qui malheureusement a été contrainte de mettre la clé sous la porte.
Oui, vous savez, c'est
comme beaucoup d'autres, hélas.
Les contraintes économiques, hein, c'est compliqué. Hein. L'édition en ce moment pour une petite maison, c'est très compliqué.
Alors, Michel Redron, je termine la présentation biographique. Vous avez travaillé ensuite à Paris au Laboratoire Central des Communications, puis vous êtes revenu en Bourgogne, en Côte d'Or, pour reprendre la direction de Honor SA à Semur en Auxoine, donc une société d'importation et de distribution d'instruments de musique. Puis vous êtes aujourd'hui en retraite depuis quelques années, tout de même maintenant, une retraite. Alors vous avez choisi de quitter la Bourgogne pour vous réfugier dans le sud, dans ce département du Gard et dans cette belle ville chargée d'histoire antique, Nîmes.
Oui, j'ai trahi la Bourgogne, mais j'adore la Bourgogne, mais les hivers sont un peu longs. Et avec l'âge, on a quand même un petit peu envie de soleil. Et Nîmes, là, je suis servi par le soleil, hein, parce que vraiment, il y en a beaucoup. Et puis, c'est tout à fait vrai. Que Nîmes, c'est quand même une ville très spéciale parce que l'histoire est présente partout et ça, j'adore.
Alors aujourd'hui, nous allons mettre en valeur donc votre dernier roman intitulé « Avec qui revoir Venise » paru aux éditions du Vignoble. Alors, je reviens sur malheureusement la liquidation judiciaire des éditions de l'Armançon. Comment, lorsqu'on a publié des recueils de nouvelles, des romans aux éditions de l'Armançon, comment vit-on la disparition de la maison d'édition qui vous a donné une notoriété éditoriale, Michel Redron ?
Eh bien, très mal, parce que déjà, c'est bien triste, parce que au-delà de l'aspect professionnel, il y a un aspect affectif. C'est sûr qu'avec Gérard Gautier, on a entretenu d'excellentes relations, qu'on entretient toujours, grâce à Dieu. Mais c'est vrai que je me suis senti un peu orphelin, comme d'ailleurs d'autres auteurs. Et puis, que faire pour continuer à vivre, continuer à publier des nouveautés et puis peut-être aussi distribuer les livres, faire rééditer les livres que j'avais déjà écrits. Alors, à mon âge, aller tirer les sonnettes pour expliquer que j'ai déjà 15 livres qu'il va falloir rééditer et puis j'ai l'intention d'en écrire d'autres, ça m'avait paru un peu difficile. Donc, j'ai décidé de créer une petite société d'édition. Et puis, j'ai été rejoint dans cette opération par un autre auteur des éditions de l'Armançon, Ignacio Catalan, qui était dans la même situation que moi. Et puis, ben voilà, depuis, on a écrit tous les deux, trois livres qui sont publiés, enfin, trois livres chacun qui sont publiés aux éditions du Vignoble.
Les éditions du Vignoble. Michel Redron, vous avez été aussi un écrivain récompensé par des prix. Je sais que votre modestie dut-elle en souffrir, c'est une information tout de même importante. Vous avez reçu notamment le prix Lucette Desvignes, décerné par la ville de Chalon-sur-Saône. Alors ça, vous y êtes attaché parce que Lucette Desvignes, nous la connaissons. C'est une grande dame de l'écriture alors en France et en Bourgogne, sans doute méconnue. Très connu aux États-Unis par son théâtre et sa poésie. Et puis, vous avez également reçu le prix Bourgogne de littérature en 2005 pour votre roman « Nous regarderons passer les éléphants ».
Oui, oui, c'est vrai. C'est pas le Goncourt, hein, mais j'étais très fier d'avoir reçu ce prix. Et puis les nouvelles, Lucette Desvignes. Bon, je suis très admirateur. Je suis un grand admirateur de Lucette Desvignes. Et comme c'est vrai qu'elle est, à mon avis, un petit peu méconnue dans son pays natal, et c'est un peu dommage parce que c'est quand même une grande dame de notre littérature. Et puis, les nouvelles, moi je suis, avant tout, j'aime la nouvelle. Le roman, c'est bien, c'est une course de fond. Moi, je suis pas un coureur de fond. Je préfère le sprint, et la nouvelle me plaît mieux. La brièveté de la nouvelle me plaît mieux.
Et vous êtes entré en littérature, Michel Rond, par un recueil de nouvelles. C'était à l'Armançon 99, Leçon de campagne. Qu'on peut retrouver d'ailleurs aux éditions du Vignoble.
Oui, parce que on l'a réédité. Bon,
toute l'enfance, l'adolescence dans le Morvan, dans le pays avalonnais.
Voilà,
rusticité, la campagne.
C'est ce que vous avez expliqué au départ. C'est cette jeunesse où je considère que j'ai eu une chance inouïe d'être en liberté dans cette belle campagne, dans ce beau Morvan.
Et à l'époque, Michel Redron, pas de tablette, pas de téléphone portable. Un bonheur simple, mais authentique.
Et un vieux vélo. Oui, non, mais c'est vrai. C'est une jeunesse complètement différente. Alors, faut pas être passéiste. Hein. C'était mieux avant. Maintenant, c'est différent. Bon, il faut vivre avec. Mais il y avait quand même un certain charme à vivre tout ça.
Avec qui revoir Venise, c'est le titre de votre nouveau roman. Ce que je vous propose, Michel Redron, c'est de marquer un premier intermède musical et puis on rentre dans l'intrigue et nous partirons à la rencontre des deux héros qui sont au cœur de Avec qui revoir Venise, pétri d'humanité et qui, comme nous, sont dans des doutes, des incertitudes, dans la nostalgie, dans des amours déçus. C'est un roman qui touche profondément le cœur et l'âme, on en parle en tout cas juste après la virgule musicale. C'est Wagon Livre sur Radion, nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Michel Redron.
Porter son âme pour une nouvelle vie, d'amour, de rêve et de magie.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Michel Redron nous accompagne jusqu'à midi dans votre émission littéraire. Un nouveau roman, Avec qui revoir Venise, paru aux éditions du Vignoble. Michel Redron, déjà, on trouve facilement votre roman sur commande auprès de n'importe quel libraire de Bourgogne, des quatre coins de la France.
Tout à fait. Il n'est pas chez tous les libraires de France et de Navarre, mais il est répertorié, donc tous les libraires peuvent le commander. En plus, il est sur le site de la FNAC, il est sur...
sur les sites marchands.
Sur les sites marchands.
J'ai précisé au début de notre échange que vous étiez venu devant le micro de Wagon Livre en 2014 pour un roman alors paru aux éditions de l'Armançon et qui avait pour titre « Et Barbara chantait ». Et on retrouve en ouverture de ce 17e livre, me semble-t-il, si j'ai bien compté.
Oui, c'est ça.
On retrouve une citation de Barbara. Une obsession chez Michel Redron. Vous voulez nous la lire, Michel Redron, la citation que vous avez retenue pour ouvrir votre nouveau roman?
C'est vrai que j'adore Barbara. Et je prends toutes les occasions, pour moi, sont bonnes, de citer et de parler de Barbara. Alors, ce que j'ai mis en exergue, c'est « Attendez que ma joie revienne et que se meure le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir. » C'est une chanson de Barbara. Moi, je trouve que c'est des très beaux vers. Et puis, cet amour qui n'en finit pas de mourir, c'est aussi un petit peu le thème de ce roman.
Alors justement, dans ce roman, dont je rappelle le titre « Avec qui revoir Venise ?», point d'interrogation, on est sur le mot interrogatif, deux jeunes personnages, une jeune femme mariée qui apparemment a fait un beau mariage. Elle connaît le bonheur, mais peut-être pas l'amour en tout cas. Avec un mari chirurgien, elle a une formation d'infirmière, elle quitte son activité d'infirmière, elle devient un peu femme à la maison. Alors c'est un petit peu le début de l'ennui, de la solitude. Couple pas tout à fait idéal, et surtout pas idéal parce que le mari veut devenir père, alors que la jeune femme, qui se prénomme Lise, ne veut pas d'enfant. On reviendra sur ce thème de la maternité. Et puis alors, l'autre personnage au cœur de votre roman, c'est un homme cette fois-ci, un jeune homme, Mathieu. Point commun avec vous, c'est quelqu'un qui a choisi au début de sa vie la carrière militaire, qu'il décide de mettre de côté. Et surtout, après de nombreuses opérations extérieures sur des terrains d'opérations dangereux, miné par les actions et les violences d'attentats terroristes. Il revient notamment du Mali. Donc il revient en France, à Marseille, qui est aussi sa ville natale. Et là, pour lui, commence, j'allais dire, une nouvelle façon d'aborder sa propre vie, de la prendre en main, de prendre un nouveau chemin, de se reconstruire. Et pourtant, il y a le fantôme d'une histoire d'amour. Voilà comment je présente Michel Redron. Alors pardonnez-moi, je n'en dis pas trop, je vous redonne la parole. Mais on a deux êtres qui finalement se trouvent tout d'un coup fragilisés à la fois par leur passé, par des personnages qu'ils ont aimés, alors d'amour ou d'amitié très intense, et ces personnages ont disparu. C'est la solitude, c'est le déséquilibre, c'est la nostalgie, c'est le travail de la mémoire qui s'opère et c'est une thématique, la mémoire, Michel Redron, qui vous est chère. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long.
Non, mais ces amours qui n'en finissent pas de mourir. On revient à ce vers de Barbara. Cette jeune femme, elle est persuadée avoir fait un très beau mariage, parce qu'elle est d'un milieu très modeste, ses parents sont des petits enseignants, et puis elle va épouser un chirurgien, lui-même fille d'un chirurgien d'une grande famille, et pour elle, c'est Byzance, c'est la pleine réussite. Et puis cette réussite va être finalement couronnée par ce voyage de noces à Venise. Et là, c'est ce qui devrait être... vraiment l'apogée, c'est finalement le début des désillusions. Parce que de jour en jour, elle s'aperçoit que finalement, elle a une belle situation, elle a le bonheur matériel, mais elle sent que finalement, il lui manque quelque chose. Et un jour, au bout de 3 ans, elle décide que finalement, il faut qu'elle change de vie. Et elle revient chez ses parents. Et puis, elle se demande finalement ce qui s'est passé pendant ces 3 ans.
Oui, elle fait un véritable travail d'introspection, d'analyse de son existence.
Absolument, aidée par son journal, parce qu'elle avait décidé de tenir un journal à partir de son mariage, du jour de son mariage. Et elle se demande toujours, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un événement? Parce qu'elle n'a pas grand-chose à reprocher à son mari. Et finalement, est-ce qu'il y a eu un événement déterminant ou est-ce que c'est juste l'usure des jours? Et donc, elle va reprendre son journal. Et jour après jour, elle va essayer de comprendre pourquoi, finalement, elle n'est pas pleinement heureuse et pourquoi elle a décidé que ce n'était pas ça, sa vie.
D'ailleurs, c'est assez subtil pour faire revivre le passé. Au lieu que la jeune femme raconte son passé, c'est très, j'allais dire, c'est une subtilité, une originalité littéraire. C'est des extraits de ce journal intime qu'elle a rédigé alors à la fois depuis ses années, fin des années lycée jusqu'au moment où elle rencontre donc Nicolas qui est effectivement carabin. Elle débute ses études d'infirmière. C'est aussi ce roman, m'a-t-il semblé, Michel Redron, une réflexion sur le couple. Quelque part, Lise et Emma Bovary de Flaubert, peut-être un peu des points communs.
Oui, oui.
Un petit peu.
Oui,
Emma Bovary. Dans des périodes différentes. Hein.
Le livre de Flaubert, c'est un livre sur l'ennui. Chez elle, ce n'est pas franchement de l'ennui, mais...
Quand elle se retrouve quand même femme à la maison, alors que lui gagne pas mal d'argent en travaillant dans le service cardiologie d'une clinique où son père et lui-même ont des parts, pour elle, elle se sent tout d'un coup un peu inutile. En plus, il n'y a pas d'enfant, mais elle n'en veut pas. Donc elle est condamnée à l'ennui, effectivement.
Oui, exactement. C'est tout à fait ça, finalement. C'est l'ennui.
Et ça la dérange énormément, parce que cet ennui, tout d'un coup, lui fait douter de la beauté de la rencontre avec Nicolas. Et le souvenir de cette rencontre perd tout d'un coup de son éclat et de la valeur qu'elle lui avait donnée, notamment en épousant ce jeune homme. Terrible parce qu'elle a presque l'impression, c'est même pas une impression, elle se dit « je me suis trompée, j'ai pris le mauvais chemin ». Il y a ce thème du chemin aussi, Michel.
Oui, tout à fait. Le thème du chemin et le thème de la rencontre. Moi, dans tous mes romans, j'attache beaucoup d'importance aux rencontres. Vous savez, on a tous une voie qui nous semble tracée, et puis un jour, on fait une rencontre. Et cette rencontre, elle va nous faire prendre un chemin totalement différent. Et c'est aussi autour de ce thème que tourne ce livre.
Michel Redron, vous avez tenu un journal intime ?
Oui, comme beaucoup d'adolescents, j'ai tenu un journal intime et puis finalement je l'ai abandonné, je dirais, à l'âge de 17 ans.
Vous l'avez encore ?
Non, je l'ai pas.
Vous l'avez détruit ? C'est perdu dans les archives familiales ?
Oui, il s'est perdu, voilà. Il s'est perdu dans les archives familiales.
Et est-ce que, comme votre héroïne Lise, si vous disposiez de votre journal intime des années de l'adolescence, vous le reliriez sans risque ou vous le brûleriez ?
Non, je le relirais, mais pas forcément sans risque. Parce que...
Alors, quel est le risque ?
Le risque, c'est de penser que finalement, on a peut-être rêvé d'une vie qu'on n'a pas réussi à réaliser.
Mais ce journal intime, si vous vous en souvenez bien, Michel Redron, et Dieu sait si le thème de la mémoire vous est cher, dans ce journal intime, c'était une succession de faits ou est-ce qu'il y avait, selon vous, des réflexions sur votre vie, sur vos familles, vos amis?
Non, c'était moins intellectuel que ça. C'était plus quand même à 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'était plus une succession de faits que des états d'âme.
Alors, nous avons évoqué les deux personnages au cœur du roman, donc Lise, la femme mariée, Mathieu, qui a connu une histoire d'amour, donc ancien militaire qui revient à Marseille, Et là aussi, pour lui, Marseille, c'est une ville qui lui renvoie de la souffrance, qui rouvre une cicatrice. Bon, c'est la ville de son enfance. Alors, ses parents sont morts alors qu'il était encore jeune. Il a été éduqué par un oncle et une tante très sympathiques, d'ailleurs. Bon, il était héritier de... Bon. Mais il a aussi grandi avec une femme très belle qui a marqué sa jeunesse. Et le retour à Marseille est quelque chose tout de même de... J'allais dire que c'est presque une bombe mémorielle. Il ne l'a jamais oublié, certes, même au Mali, il a le souvenir de cette femme. Mais le retour à Marseille, il y a ce danger de la mémoire qui grandit et l'histoire d'amour revient. C'est une femme qu'il a aimée et qui a disparu un jour en lui disant au revoir, en montant dans un taxi et pouf, c'est complètement évanoui.
Voilà, et ça a complètement bouleversé sa vie, et c'est ce qui a fait qu'il a abandonné complètement ses études et qu'il s'est engagé dans l'armée en espérant oublier cette femme. Mais pendant toutes ces années, l'image de cette femme l'a hanté.
Michel Redron, un peu d'audace dans ma question. Vous vous êtes engagé dans l'armée pour oublier quelqu'un, une femme ?
Non, je me suis engagé dans l'armée parce que quand on a... Mes parents étaient très pauvres et je n'avais pas trop de solutions. L'armée mène à tout à condition d'en sortir. Vous savez, cette fameuse formule.
Ouais, c'était une vraie école. C'était une école où on risquait sa vie quand même, surtout en étant en Algérie.
Oui, enfin bon...
C'était pas l'armée de métier dans les casernes.
Non.
Je ne dévalorise pas, mais c'était tout de même du terrain.
Oui, risqué. Mais j'étais dans l'aviation, donc c'est quand même pas... C'est pas la Légion. Hein.
Alors ça, c'est le chemin que vous avez pris à un moment de votre vie. Vous en avez pris d'autres, puisque les chemins, parfois, de par une rencontre, on prend un autre chemin dans son existence. J'insiste sur ce thème du chemin parce que dans votre roman « Avec qui revoir Venise », il est beaucoup question de chemin. On peut dire que Mathieu a suivi un certain chemin. Lise suit ce qu'elle croit être, alors comme l'appelait son grand-père, le chemin du bon Dieu, c'est-à-dire le chemin d'une vie rangée, j'allais dire d'une vie normale. Je me méfie de cet adjectif normal parce que qu'est-ce que la normalité ? Vous êtes d'accord avec moi, Michel ?
Ah oui, tout à fait.
Qu'est-ce que c'est qu'une vie normale ? Est-ce que se marier, c'est une vie normale ? Est-ce que rester vieux garçon ou vieille fille, c'est une vie normale ?
On a tous notre propre normalité.
C'est cela, hein, d'où parfois des incompréhensions ou des jugements un peu hâtifs sur l'existence des autres. Néanmoins, ce thème du chemin du bon Dieu, expression chère au grand-père de Lise, le chemin du bon Dieu, où avez-vous puisé cela, Michel ?
Ben, le chemin du bon Dieu, c'est toujours les rencontres. Moi, je pense que dans notre vie, il y a plusieurs carrefours. Et à chaque fois, on doit décider de prendre un chemin. Et il faut être très attentif au chemin qui s'offre à nous.
Oui, parce que ça peut être une voie sans issue.
Ça peut être une voie sans issue, mais ça peut être aussi le chemin du bon Dieu.
Et vous, Michel, vous l'avez trouvé, votre chemin du bon Dieu ?
C'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais je pense.
Et par le biais de rencontres ?
Ah oui. Alors là,
pense que sentimentalement, moi... vous êtes un homme marié, vous avez des enfants.
Oui.
Mais professionnellement, il y a eu aussi des rencontres qui ont marqué, modelé votre parcours.
Absolument, c'est surtout ça. Moi, j'ai croisé un certain nombre de personnes qui ont complètement bouleversé ma vie. Je vais donner un exemple connu. Je me suis installé à Semur-en-Auxois pour créer Honneur Électronique, c'est parce que j'avais rencontré monsieur et madame De Forêt, qui eux sont vraiment à l'origine de cette société, avec qui on s'était associé. Et c'est clair que cette rencontre avec Christian et Colette De Forêt ont complètement bouleversé ma vie.
On reviendra sur le thème des rencontres, le destin, le hasard, si vous le voulez bien, Michel Redron. En tout cas, vous êtes sur le chemin de Radion et c'est, je l'espère, pour celles et ceux qui nous écoutent aussi, une belle rencontre par le biais des ondes. C'est Michel Redron qui nous accompagne avec son nouveau roman « Avec qui revoir Venise ?» disponible aux éditions du Vignoble. Nous nous retrouvons d'ici quelques minutes, le temps d'une petite pause musicale.
This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. Oh please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy I hope you can show me. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tile. As I'm walking down the corridor. And I know we haven't talked in a while. So I'm looking for an open door. Slipping through the cracks of your cold embrace. Oh please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy I hope you can show me. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving baby let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving baby let down slowly. And I can't stop myself from falling down. 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 Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Michel Redron, toujours très heureux de vous avoir devant notre micro. Avec qui revoir Venise, votre dernier roman, nous ramène aussi à nos propres existences. Le parcours de vos personnages, leur vie heureuse, leur bonheur qu'ils croient, qui peut aussi être un mirage, être une image un peu déformée. Lorsque la réalité éclate, la chute est difficile et c'est le début d'un esprit qui tout d'un coup se dit « Je me suis trompé, je n'ai pas pris le bon chemin, il me faut réagir ». Juste avant la pause musicale, vous insistiez sur l'importance des rencontres, humaines surtout, parce qu'il peut y avoir des rencontres intellectuelles. Hein. Une lecture, c'est aussi une rencontre par le biais de l'esprit, de l'échange. Mais les rencontres humaines, vous l'expliquiez également sur un plan personnel, elles ont été essentielles à votre existence. C'est le petit coup de pouce qui vous met, qui vous aiguille sur le bon chemin. À titre personnel, Michel Redron, ces rencontres, pur hasard, ou est-ce qu'elles étaient inscrites dans ce que vous considérez ou pas comme le destin qui allait modeler votre vie?
Alors là, grande question. Le destin, qu'est-ce que le destin? Alors, pourquoi pas? Moi, je ne pense pas vraiment que chacun a un destin d'inscrit et d'écrit. Parce que, encore une fois, je reviens aux rencontres, parce qu'on a quand même un libre choix. Quand on a trois ou quatre voies à prendre, on en choisit une. Et c'est quand même un choix personnel. Alors on peut aussi dire que c'est le destin qui nous impose ce choix. Mais là, ça se mord la queue, quoi.
D'ailleurs, Mathieu croit au hasard. Votre ancien militaire, revenu à Marseille, hanté par une histoire d'amour qui refait surface, lui, il croit à hasard. Et vous citez alors un poète surréaliste que j'aime beaucoup, Paul Éluard, qui disait « Il n'y a pas de hasard. »
« Il n'y a que des rencontres. »
C'est encore plus beau, « Il n'y a que des rendez-vous. »
« Que des rendez-vous, pardon. »
Ça, c'est magnifique. Je répète la citation. « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. » Un petit commentaire, Michel Rodron, sur cette citation d'Éluard.
Eh bien, c'est vrai, il n'y a que des rendez-vous, mais qui provoque ces rendez-vous mystérieux et si c'était le hasard?
Oui. Alors, il y a aussi, à travers le parcours de Lise et la vie de Mathieu, il y a une réflexion, puisque la mémoire est essentielle, elle nourrit le roman, elle nourrit la vie. Peut-être aussi, c'est elle qui offre l'énergie au personnage pour trouver le bon chemin. Et ça, c'est très intéressant. Parce que c'est très psychologique, ce roman, tout de même, Michel Rodron. Vous aimez investiguer les méandres de la psychologie des personnages.
Oui, j'aime bien fouiller les âmes.
Oui, ça, c'est flagrant.
Oui, je pense que c'est toute la richesse humaine. Et puis, c'est là qu'il faut aller chercher.
Alors, il est beaucoup question du passé. Et d'ailleurs, plusieurs des personnages ont des réflexions différentes. L'un dit « On ne sait jamais ce que le passé nous réserve ». Alors j'ai relu la phrase en me disant « Mais peut-être y a-t-il une coquille ?» Non, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Ça voudrait dire que finalement, celui qui cherche à se replonger dans le passé peut ouvrir des portes qui amènent sur des domaines douloureux.
Ah, tout à fait, tout à fait. C'est pas du tout une coquille. Le passé nous réserve des surprises continuellement.
Élise dit à un personnage dans le roman, « Il y a des gens qui craignent l'avenir, mais ils ont tort. Le passé est plus angoissant. » Ça, c'est très intéressant.
C'est la même idée.
Alors, il vaut mieux tendre pour trouver le bon chemin. Il vaut mieux tendre vers l'avenir et se détourner complètement du passé, c'est-à-dire ne pas faire marche arrière, pas faire route arrière.
Mais dans son choix, il faut tenir compte de son passé.
En tout cas, il y a un autre personnage, puisque Lise, à un moment, choisit de reprendre son activité d'infirmière. Alors, nous sommes dans les années très récentes, hein, puisqu'il y est question
de Covid,
du président François Hollande, du candidat Emmanuel Macron lors de sa première élection, de Covid. Effectivement, on est vraiment dans une France actuelle. Et à un moment, à l'hôpital, il y a une femme aux urgences et Lise, infirmière, rencontre cette femme qui, d'ailleurs, là aussi, hasard n'est pas n'importe qui. Mais il faut revenir sur ces personnages absents, alors absents, mais qui hantent votre roman. C'est incroyable combien les absents sont présents, étonnamment. Je l'ai dit, Mathieu, retour à Marseille, a aimé une femme à Marseille qui a disparu subitement. Lise, notre femme mariée, j'allais dire, si bien mariée, mais qui, en fait, a connu le bonheur, mais pas l'amour, elle, en relisant son journal intime, elle retrouve des passages très importants dans lesquels elle évoque une grande amie de ses années de lycée qui se prénomme Sandrine, une jeune femme qui, elle aussi, tout comme le grand amour de Mathieu, j'allais dire comme Chirac, a fait pchit, a disparu aussi complètement. Et il y a ces fantômes dans l'esprit de vos personnages et qui vont refaire surface ou refont surface par des signes parfois.
Oui.
Je ne veux pas trop raconter parce qu'il ne s'agit pas de vendre la mèche du roman qui est extrêmement... Alors c'est très fin, c'est très subtil. Et j'imagine aussi que pour créer et bien rendre cela, ça a dû demander du dosage de suspense, parce que c'est une enquête aussi, d'une certaine manière.
Ces deux personnages, finalement, sont blessés. Ils portent tous les deux une blessure. Et finalement, c'est cette blessure qui va les rapprocher.
C'est blessure d'amour pour Mathieu et blessure d'amitié pour Lise.
D'amitié, mais presque d'amour aussi, parce que c'était un petit peu équivoque. Cette amitié entre Lise et son ami, c'était, bon, c'était un amour de jeunesse, mais enfin, c'était quand même un petit peu plus que de l'amitié, quoi.
En tout cas, ça revient un peu à un seul être vous manque et tout est dépeuplé.
Oui, absolument.
Mais finalement, il faut continuer à vivre dans le manque et dans la souffrance. C'est aussi un roman qui rappelle qu'il faut aussi être fort et parfois se résigner.
Oui, bien sûr. Mais aussi, il y a le fait que cette blessure, on n'en est pas toujours conscient. Cette blessure, elle modifie nos comportements, mais des fois à notre insu.
C'est aussi une réflexion, ce roman, sur le fait, peut-être c'est l'aspect un peu pessimiste, c'est que les choses ne durent pas.
Ah oui, tout est vraiment, et c'est le... Je crois que il me semble que le grand-père qui est jardinier de Lise lui disait souvent... Que tout passe et tout lasse, les saisons se suivent et puis la nature est un éternel recommencement.
Accepter que les choses ne durent pas, c'est aussi accepter que les histoires d'amour ne durent pas, Michel Rodron ?
Oui, c'est accepter que les histoires d'amour ne durent pas. Mais c'est aussi comprendre qu'elles sont très difficiles à oublier.
Il y a justement une réflexion justement sur l'amour. Parce que Mathieu, qui a aimé cette femme qui a disparu, il y a ce propos que j'aime énormément. Mais là, Michel Rodron, je vais vous demander de rebondir dessus. Vous écrivez, ou le narrateur dit « L'amour est un jeu ». Où l'on a le droit de se tromper.
Oui.
Alors, autant tout à l'heure vous disiez, attention, il ne s'agit pas de prendre de mauvais chemins qui sont des impasses ou des voies sans issue. Une histoire d'amour, on peut l'entamer et avoir le droit de se tromper et donc de souffrir peut-être au final.
Je crois qu'il ne faut pas être trop prudent. C'est ça. Je crois que si on pêche par excès de prudence, on peut passer à côté de l'amour. Et l'amour, c'est quand même très important. Et il faut savoir admettre que quand on se lance dans un amour, dans un grand amour, on a le droit de se tromper et on a le droit de courir le risque d'être malheureux.
Autre propos très intéressant. Je trouve que c'est un roman que celles et ceux qui sont en souffrance après une séparation, une rupture sentimentale ou amoureuse, c'est un roman pour eux, me semble-t-il. Je trouve qu'il peut vous aider à guérir, Michel Rodron, votre roman. Je vous cite, ou du moins à propos, dans votre roman. « On peut cesser d'aimer, mais on ne peut pas cesser d'avoir aimé. »
Oui. C'est encore on revient à la blessure. Même si on cesse d'aimer, le fait qu'on a connu l'amour, c'est quelque chose qui va nous marquer à vie.
Et puis vous citez, alors il y a quelques références littéraires. Je vais vous demander, Michel, là c'est dans le journal que Lise feuillette à nouveau. J'aimerais que vous lisiez la citation du grand Marcel Proust, qui évoque le chagrin d'amour.
Pour oublier son chagrin d'amour et atteindre l'indifférence, il faut traverser en sens inverse tous les sentiments par lesquels on est passé.
Donc c'est en fait, c'est rembobiner un peu le fil, c'est vraiment du retour en arrière, mais revivre
voilà,
les beaux moments. Quoi.
Absolument. Et c'est la seule condition pour oublier. C'est vraiment tout revivre.
Dans votre roman, cette phrase aussi m'intéresse beaucoup sur le couple, parce que c'est une réflexion aussi sur le couple. Il y a beaucoup de thèmes qui s'entrelacent dans votre texte, Michel Rodron. Vous écrivez « Dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre ». Vous pensez que c'est vrai ?
Ah oui, je crois que l'égalité dans un couple, je pense que ça n'existe pas vraiment. Il y a toujours un des deux qui aime plus que l'autre.
Et ce déséquilibre nuit nullement au couple ?
Non, ça peut ne pas nuire, mais ça peut aussi provoquer la rupture.
Il y a, dans ce roman aussi, trois villes importantes. Venise, qui se trouve dans le titre du livre. Il y a Nîmes, une ville que vous connaissez bien. Et puis, à une heure de route, il y a Marseille. Marseille, Nîmes, Venise, j'allais dire, c'est une espèce de triangle géographique et spatial qui occupe les esprits et meuble la vie de vos personnages, très méditerranéens finalement, Michel.
Oui, ces trois villes qui me sont chères, surtout Venise. Je considère, moi, que vraiment Venise, c'est la ville incontournable. C'est
Alors, pourrait vous reprocher, en vous disant que Venise, c'est un petit peu cliché d'en avoir fait le lieu du voyage de noces de Lise et Nicolas.
Oui, mais...
Ils auraient pu aller... quelque chose de plus exotique. Là, ça te paraît un petit peu, comment dire, presque académique, non ?
Oui, mais c'est très bourgeois. Parce que finalement, Lise, elle va rentrer dans un milieu qu'elle ne connaît pas, qui est le milieu de la bourgeoisie. Et ça se fait beaucoup quand même. Le voyage de noces à Venise, c'est quand même une tradition bourgeoise.
Et puis, c'est vrai qu'ils sont... Alors, c'est payé par les parents de Nicolas... Ils sont dans le superbe palace de Venise. Et effectivement, il y a quand même... Bien sûr, ils sont ensemble. Il y a une fusion lors du voyage de noces à Venise. Mais on sent que Nicolas n'a tout de même pas la même culture.
Non.
Il n'est pas très sensible. Il semble... Il semble manquer un peu de velouté, enfin de d'épaisseur intellectuelle.
Absolument, et ça va être la première déception de Lise. Ça, finalement, ce voyage à Venise, qui aurait dû vraiment la combler, la comble pas parce qu'elle découvre les premières failles de son mari.
Faut dire que lui, alors après tout, Venise, pour lui, c'est la ville natale d'un héros d'une bande dessinée célèbre.
Oui, c'est pas du tout le même niveau intellectuel, quoi.
Bon, après tout, la BD, c'est aussi un bel univers.
Absolument.
Et puis, il y a... Alors, c'est dans son journal. Lise dit, en parlant de Nicolas, « Je suis comme... » On revient d'ailleurs à votre chanteuse fétiche. « Je suis comme Barbara. Je n'ai pas la patience des femmes de marins, lui ai-je dit en souriant. » Il, donc, son mari, Nicolas, il m'a demandé qui était Barbara. Alors là, Michel, vous enfoncez le clou, là. Hein.
Oui, absolument. C'est deux mondes. De toute façon, ce livre aussi, c'est les difficultés qu'il y a à changer de milieu. Parce que le gros problème de Lise, c'est qu'elle était dans un milieu donc, modeste, d'enseignant, très intellectuel, finalement. Mais
et même
modeste.
Politiquement, sans doute pas très en adéquation
non.
avec la droite libérale que représentent les parents de Nicolas.
Exactement. Et là, elle va être émerveillée au début par le luxe, par l'argent facile, par tout ça. Et puis, elle va s'apercevoir que finalement, c'est pas ce qu'elle cherche, quoi. Et il y a une difficulté d'adaptation à ce milieu qui n'est pas le sien. Parce que c'est un autre type de relation.
Il faut tout de même, pour être précis, souligner que Lise est acceptée par son futur beau-père grâce à la maman de Nicolas. On a l'impression que que les femmes, entre elles, se défendent et se soutiennent.
Absolument. Mais on va apprendre aussi quand même qu'elle l'avait accepté pour des raisons un petit peu curieuses quand même.
Le temps passe très vite, Michel Redron. On marque un dernier intermède musical. Et puis, on reviendra un petit peu sur la terre de Bourgogne, puisqu'il en est question à travers le grand-père de Lise, votre héroïne, qui est un bourguignon de la Côte d'Or vitivinicole. On en parle juste après cette petite virgule et nous retrouvons notre invité Michel Redron, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
I made mistakes I can't erase, like every promise you will say. I said so, 'cause you said so. Running but we're still in place, couldn't look you in the face when I messed up. And it's messed up. Didn't wanna talk to you, so instead I ran outside, making noises through the night. And it's
couldn't stand the fight, but now it's empty inside. Do you ever miss the call? Making noises through the night, and it's selfish, but I didn't wanna tell the truth, 'cause I couldn't stand the fight, but now it's empty inside. Do you ever miss the cold?
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Avec qui revoir Venise, c'est le titre du dernier roman de Michel Redron qui est aujourd'hui devant notre micro, roman disponible aux éditions du Vignoble. Juste avant de nous séparer, Michel Redron, vous êtes bourguignon, je l'ai rappelé, vous êtes né dans l'Yonne à Avallon, c'est quand même le sud du département de l'Yonne. Vous mettez en scène le grand-père de Lise qui lui... alors. Ça, Michel Redron, il va falloir que vous m'expliquiez. Vous dites qu'il est un homme de la vraie Bourgogne. Qu'est-ce que ça veut dire, la vraie Bourgogne? Vous allez vous faire quelques ennemis.
Oui, je vais me faire...
Qu'est-ce que la vraie Bourgogne?
Eh bien, moi, la Bourgogne, on dit qu'elle commence à Auxerre. Pour moi, c'est pas tout à fait ça. Même si le bon Chablis est une appellation Bourgogne, pour moi, l'image d'Épinal, si je peux dire, de la Bourgogne, c'est quand même la Côte des Vins, quoi. C'est Beaune, c'est de Dijon à Mâcon, quoi. Et c'est cette Bourgogne-là qui est célèbre dans le monde. C'est pas le Morvan, même si le Morvan fait partie de la Bourgogne, pour le touriste allemand, il va, oui, quand il vient à Bourgogne.
Ou l'Américain, par exemple.
Ou l'Américain, oui, il vient à Beaune, enfin, oui, il vient à Dijon, il vient pas à Auxerre.
Et ce grand-père jardinier, alors, il a, lui aussi, c'est un homme du passé, pour Lise, puisque malheureusement, il disparaît. On peut dire que c'est une sorte de phare, c'est un phare pour Lise, c'est une figure essentielle. C'est le rappel aussi quand même que nos grands-parents parfois nous ont modelés et peut-être nous ont appris à prendre aussi le bon chemin. Parce que le bon chemin de Dieu, c'est tout de même ce grand-père qui en a beaucoup parlé à sa petite-fille.
Oui, c'est vraiment un personnage tutélaire. C'est vraiment ce personnage qui lui a donné toute sa philosophie. C'est lui qui lui a enseigné l'amour de la nature. C'est lui qui lui a enseigné la sagesse. Et sa disparition va la marquer beaucoup, quoi.
Alors évidemment, chacun de vos deux personnages se met en quête en exploitant son passé. Il s'agit d'essayer de trouver la vérité, de retrouver ses amis disparus. Et bien évidemment, quand on prend les bons chemins se croisent. Et je n'en dis pas plus, parce que c'est à découvrir dans votre roman « Avec qui revoir Venise ?» Michel Rodron, on est quasiment au terme de l'émission. Y aurait-il un aspect de ce nouveau roman que je n'aurais pas évoqué à travers une de mes questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez mettre en valeur et dont nous n'aurions pas parlé?
Non, je pense que vous avez fait une analyse très, très précise et très fouillée du roman, qui m'a même peut-être quelquefois aidé à découvrir des choses qui m'avaient échappé. Non, je veux peut-être, s'il y avait à revenir sur un point, je reviens quand même sur la difficulté de changer de milieu. Quand Lise épouse ce garçon, elle est persuadée que c'est une réussite totale. Et elle va s'apercevoir que finalement, elle est plus attachée aux valeurs intellectuelles de son milieu qu'aux valeurs matérielles de celui de son mari.
Et puis, il y a aussi l'aspect de la maternité, on n'en a pas assez parlé, c'est que aussi ce couple se désagrège parce que Nicolas veut devenir père. Pour lui, être marié et ne pas avoir d'enfant, c'est une vie qui devient tout d'un coup vide de sens. Or, Lise ne veut pas d'enfant. C'est pas qu'elle ne veut pas d'enfant pour le simple fait « je ne veux pas de bébé », elle dit surtout « je ne veux pas d'enfant » de Nicolas et je ne veux pas d'un enfant qui ressemble à Nicolas.
C'est la clé.
Et là, une vraie nuance.
Et là, c'est vraiment la clé.
Oui.
C'est la clé parce que quand elle est avec son amie un jour sur la plage, son amie a un garçon qui est très turbulent et son amie lui dit « ah, il est comme son père ». Et là, elle a vraiment une révélation. Elle se dit « si j'avais un enfant, il serait effectivement comme Nicolas ». Et de ça, c'est pas possible.
Et donc, avec qui Lise pourra-t-elle revoir Venise tout comme elle avait découvert la Sérénissime lors de ce voyage de noces? Eh bien, c'est à découvrir dans le roman de Michel Rodron.
Et évidemment, revoir Venise, c'est retrouver l'amour, quoi.
C'est cela, absolument. Deux vies parallèles dans lesquelles se croisent secrets et non-dits, où les rencontres ne sont pas le seul fruit du hasard, où le passé est plus incertain que l'avenir. Avec qui revoir Venise de Michel Rodron aux éditions du Vignoble. On le trouve sur les sites marchands et on peut bien évidemment en faire la demande auprès de son libraire. Michel Rodron, merci d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui devant le micro de Wagon Livre.
Merci.
Nous avons
à
renoué,
vous.
Il était temps après tant d'années que vous reveniez devant ce micro.
Merci à vous.
Merci Michel Rodron. Je rappelle que si vous avez manqué cette émission ou si vous souhaitez tout simplement la réécouter ou la partager, eh bien, vous la retrouvez en balado-diffusion pour proscrire cet horrible mot de podcast yannickpetit.fr. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 17 septembre, toujours à 11h. Nous serons avec Loïc Le Goff pour son roman Le Grand Détour, disponible aux éditions Mutine. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine. Au revoir et merci de votre écoute.